Les Canuts, troisième partie, chapitre 14. Le temps s'était refroidi. Dans le jour gris du matin, la neige, tombant à gros flocons serrés, blanchissait le sol. Place des Cordeliers, la grange, sombre, découragée, parlait au milieu d'un groupe d'insurgés. De toutes parts, arrivaient de mauvaises nouvelles. Aucun secours ne venait de Paris ni de la province. Les faubourgs avaient été enlevés de vive force, à l'exception de Vaise, qui résistait encore, grâce aux armes prises aux gardes nationales des campagnes. Saint-Just, la Guillotière, la Croix-Rousse étaient déjà pacifiées. Les troupes faisaient des progrès sur tous les points. Déjà maîtresses des places de la Fromagerie et de Saint-Nizier, elles enserraient dans un cercle de fer les derniers défenseurs de la République. Tout au plus pourraient-ils résister jusqu'à la fin du jour. La grange leur avait bien dit que la révolte était trop hâtive. Ils ne l'avaient pas écoutée. Et n'était-ce pas une folie de continuer la lutte si peu nombreux en face d'une armée? Ses compagnons d'armes s'étaient bravement battus. Certes, ils les en louaient. Parmi les périls de toutes sortes, leur courage, loin de faiblir, semblait grandir encore. Mais ils leur montraient autour d'eux les maisons incendiées percées à jour, les devantures des magasins mises en pièces, l'image, enfin, d'une ville dévastée. Ils ne voudraient pas faire tuer inutilement des femmes et des enfants. Le sang n'avait-il pas assez coulé? Sans doute, il était dur pour des braves de reculer. Mais l'humanité leur commandait de chercher les moyens d'une retraite honorable. À l'heure présente, on pouvait encore percer la ligne des troupes et se retirer à Vaise. Dans 2 heures, peut-être, on ne le pourrait plus. Ce n'était pas une honte de céder à des forces écrasantes. Il fallait tout attendre du temps. Leur exemple finirait par entraîner ceux qui ne les avaient point suivis. Le sang de leurs glorieux frères morts pour la liberté serait une semence d'où naîtraient des héros. Les paroles de Lagrange ne furent accueillies que par des murmures. Quelques insurgés, trop engagés dans la révolte pour espérer le pardon, ou assez ivres pour insulter leur chef, laissaient échapper des propos soupçonneux. Le « général » allait-il les trahir, à présent, capituler comme un lâche? Lagrange leur ferma la bouche. « Vous voulez vous battre jusqu'au bout ? » reprit-il vivement. « Oui, oui, jusqu'au bout. Soit, je marcherai encore à votre tête, et si ma vie peut être utile à notre cause, je suis prêt à la livrer à la bouche des canons. » « Bravo, bravo ! Cette fois, c'est Lagrange qui parle. » « Eh bien, aux armes ! Qu'ils me suivent, ceux qui veulent mourir pour la République !» Il prit un fusil et courut à la barricade du pont Lafayette. Les troupes, massées sur la rive gauche du Rhône, commençaient à s'agiter. Des sentinelles étaient postées au milieu du pont. Du haut de la barricade, Lagrange épaula vivement et tira. C'était le premier coup de feu de la journée. Accourant autour de leur chef, les insurgés reprirent leur poste de combat. Son exemple leur rendait courage. Ils recommençaient la lutte avec une héroïque ardeur. Marius était remonté à son 4e étage. Ses hommes tiraient sans relâche sur le pont Lafayette et leurs balles faisaient de nombreuses victimes. Mais les vides se comblaient à mesure. Les compagnies se rapprochaient, marchaient en rang serré à l'attaque des barricades. À tout prix, l'autorité voulait mettre fin à l'émeute en l'écrasant dans son dernier repère. Les soldats cherchaient à déloger Marius et ses hommes. Les balles pleuvaient sur les fenêtres, comme des grêlons un jour d'orage. Sur 10 insurgés, 4 gisaient hors de combat. Marius fit placer des matelas contre les châssis des fenêtres, et ils continuèrent le feu par des ouvertures pratiquées à la hâte. Mais bientôt, les bourres vinrent à manquer. Les hommes arrachèrent le papier des murailles, puis, lorsqu'il n'y en eut plus à leur portée, ils déchirèrent leurs chemises et firent des bourres avec ces lambeaux. Du côté de la Saône, les troupes faisaient de rapides progrès. Les sapeurs du génie avaient percé les maisons de proche en proche, établi des passages à la pioche et à la hache. On entendait, à l'entrée de la rue Tupin, des cris et des gémissements partant d'une maison prise d'assaut par les soldats. L'escalier avait été coupé par le bas ou renversé par un pétard. Personne ne sortait plus par la porte grande ouverte. On voyait seulement, aux derniers étages, des insurgés passer rapidement devant les fenêtres, poursuivis de chambre en chambre, la baïonnette dans les reins. Sur le toit couvert de neige, d'autres ouvriers se dissimulaient derrière les cheminées. Mais d'une maison voisine, on tirait sur eux. D'en bas, on apercevait les malheureux roulant le long du toit. Quelques-uns, lancés dans l'espace, venaient s'écraser sourdement sur le pavé. Plus loin, des hommes, entraînés par l'ardeur de la lutte, se poursuivaient sur les toitures glissantes. Les insurgés commençaient à manquer de munitions. Pour résister plus longtemps, ceux qui n'avaient plus de cartouches arrachaient les pavés de la place et les portaient aux étages supérieurs des maisons. De minute en minute, les troupes gagnaient du terrain. Plusieurs fois, elles avaient tenté un assaut contre la barricade du pont Lafayette. Héroïquement, une poignée de soldats s'efforçait de l'escalader sous les balles des défenseurs. Le sabre au poing, la grange se dressant au sommet.
« Rendez-vous !» leur cria-t-il. « Ou vous êtes morts !
Vive la France !»
répondirent les pioupiou. Couverts de poussière, noirs de poudre, ils retombèrent percés de coups de baïonnette. Mais à l'extrémité du pont, le général Fleury, perdant patience, faisait avancer l'artillerie. Les soldats se retiraient derrière les pièces. Il y eut une trêve.
« Tonnerre, que j'ai faim !»
s'écria un insurgé rechargeant son fusil fumant.
« Tu as faim ?»
répondit Lagrange.
« Prends patience, va. Il est 10 heures. À 11, nous serons tous morts. »
Deux maisons venaient d'être incendiées par des boulets. Fuyant leur demeure, des mères affolées, traînant après elles leurs enfants, couraient chercher un refuge dans l'église. Là, des hommes sinistres erraient autour de l'ambulance. Le nombre des blessés s'accroissait d'heure en heure. Le poids des journées précédentes, l'agonie des mourants, l'arrivée incessante de nouvelles victimes, l'issue redoutable de la lutte, achevaient d'exaspérer les insurgés. Les chefs répétaient les bruits encourageants qui avaient déterminé tant d'ouvriers à prendre les armes. Grenoble, Vienne, Saint-Étienne se décidaient à marcher à leur secours.
Paris était en feu.
Paris en feu. Beaucoup croyaient à cette rumeur qu'ils ne discutaient pas. Ces désastres qu'on leur annonçait, au milieu de leurs propres désastres, ils les accueillaient avec une joie farouche. Leur imagination surexcitée entrevoyait de lointains reflets d'incendie comme une lueur d'espoir. Paris en feu. Tout n'était pas encore perdu. Il fallait prolonger la résistance, s'efforcer de tenir jusqu'au bout. Et sans relâche, on fabriquait des cartouches. Des hommes, des femmes s'acharnaient fiévreusement à la besogne. Calme, au milieu des scènes de mort et du vacarme des batteries, Louise, allant d'un blessé à un autre, secondant les prêtres et les chirurgiens, pansait les plaies, apportait à boire aux mourants, essayait de les consoler des maux présents par l'espérance d'une vie meilleure.
Plusieurs écoutaient ses douces paroles et la remerciaient de ses soins. D'autres, aigris par la souffrance, la repoussaient avec des injures. Mais rien ne la rebutait. Chaque fois que la porte se rouvrait pour livrer passage au convoi de blessés, Louise s'empressait autour d'eux. L'un avait les deux cuisses traversées par un biscaïen. Un autre, les muscles des jambes emportés par une volée de mitraille, perdait son sang par une horrible plaie. Au milieu des cris lamentables de leurs camarades, quelques-uns supportaient stoïquement la douleur. Pendant que le chirurgien torturait un homme qui avait eu l'os pariétal fracturé par une balle, le blessé, entendant le tocsin, s'irritait de la maladresse du sonneur. Un jeune homme de 25 ans à peine, atteint sur un toit par une balle, était en proie à une grande exaltation. Et, dans son visage blême, ses grands yeux noirs brillaient comme hallucinés.
Il se réjouissait de sa blessure, qui lui vaudrait un bel avenir sous le gouvernement républicain.
Les chefs, eux, comprenaient maintenant que tout était fini. Il était 3 heures. On s'était porté à la défense de l'église de Saint-Nizier. Vigoureusement attaquée par la garnison, en un instant, elle avait été enlevée. Les débris des insurgés vaincus s'étaient repliés sur les cordeliers, affectant des airs de triomphe. Pourtant, un des chefs, traversant précipitamment l'église, cria en courant à l'abbé Pérard.
« Monsieur le curé, sauvez-vous! Ne vous faites pas massacrer !»
De la rue Grenette et de la rue de la Gerbe, des compagnies du 6e et du 28e de ligne faisaient une fusillade enragée. Tout autour éclataient les pétards que les sapeurs du génie attachaient aux portes des maisons. Le tonnerre de la canonnade était si rapproché que toute l'église en tremblait. À la hâte, les blessés furent enlevés de la nef et transportés dans les chapelles latérales. On craignait que le clocher ne s'écroulât sur eux. Brusquement, le portail s'ouvrit. Une 20aine d'hommes, les vêtements en lambeaux, s'engouffrèrent dans l'église comme des gens poursuivis. Marius et ses camarades entrèrent les derniers, refermèrent le lourd portail et se mirent à le barricader. Alors, ils s'aperçurent que Nerbollier n'était plus avec eux. Il avait sans doute été frappé pendant leur course folle sous les balles. Les troupes s'étaient ouvert un passage à coups de canon. La grange était tombée, blessée, sur les cadavres des siens. On avait pu l'enlever à temps, il était au pouvoir des soldats. Les derniers survivants se battaient en désespéré. Il n'était plus possible de fuir. L'armée les enserrait dans un cercle de fer et de feu. Attendre le pardon du vainqueur eût été une chimère. Ils sentaient qu'on ne leur ferait pas de quartier. Ces soldats, qui les avaient forcés dans leur dernière retraite, avaient aussi des frères à venger. Dès qu'elle aperçut Marius, Louise, réfugiée avec Eugène dans une chapelle auprès des blessés, accourut, anxieuse.
« Vous n'avez pas de mal, Marius ?»«
Non, » dit-il haletant.
« Mais nous sommes tous perdus. »«
Louise, pourquoi êtes-vous venue ici ? Qui vous défendra quand je serai mort ?» Elle leva les mains au ciel, sans pouvoir parler. Des coups de hache retentissaient dans le portail. Les sapeurs frappaient avec rage. Les lourds plateaux de chêne, semés de gros clous qui émoussaient les haches, résistaient aux efforts. Il y eut pour les insurgés quelques minutes d'horrible attente. Quelques-uns avaient cru pouvoir s'échapper par la porte secrète de la sacristie. Maintenant, ils y renonçaient. Ils n'auraient pu faire 10 pas sans être massacrés. Un d'eux s'était hissé à une fenêtre et avait, une dernière fois, décharger son fusil sur les agresseurs. D'autres, épuisés par la lutte sauvage qu'ils avaient livrée, en attendaient patiemment l'issue. Celui qui, tout à l'heure, à la barricade, se plaignait de la faim, avait trouvé des vivres dans l'église, et, le dos contre un pilier, mangeaient avidement. D'autres, enfin, s'exaltant à la pensée de devenir des martyrs de la République, chantaient à plein poumon la Marseillaise et, toute leur énergie se concentrant dans leur voix, ils emplissaient les voûtes de hurlements farouches. Les coups redoublaient contre le portail. On faisait le bélier avec une énorme poutre placée sur un affût de canon, tandis que les haches ne cessaient de frapper. Marius et les hommes qui gardaient du sang-froid, pour prolonger la résistance, avaient amoncelé contre le portail les bahuts en noyer de la sacristie, les bancs du chœur arrachés avec leurs stalles, les confessionnaux. Marius savait que tout serait inutile. Assiégés par une armée, ses compagnons et lui allaient être écrasés sans merci. Mais s'il avait fait le sacrifice de sa vie, il cherchait à retarder le carnage où les deux êtres qu'il avait à protéger allaient trouver la mort. Soudain, les coups cessèrent. Il se passait quelque chose d'imprévu. Un homme se fit hisser à une petite fenêtre qui donnait sur la place. À peine eut-il jeté un regard dehors, qu'il redescendit en toute hâte, les traits bouleversés.
« Sauf qui peut !»
cria-t-il de toutes ses forces.
« Aux chapelles !»
Il dit ce qu'il avait vu. Impatient d'en finir, les soldats venaient de placer un baril de poudre contre le portail. La mèche allumée fumait déjà. Oubliant tout le reste, Marius courut vers la chapelle où les deux enfants s'étaient réfugiés et, debout devant eux, un pistolet d'une main et un sabre de l'autre, il attendit. Les assiégés s'étaient jetés pêle-mêle dans les chapelles latérales. Les uns préparaient encore leurs armes pour une suprême résistance, d'autres s'étaient couchés à terre, anéantis. Tout à coup, une épouvantable explosion secoua tout l'édifice. Les vitraux volèrent en éclats. Le portail, les bancs, les placards, les confessionnaux amoncelés sautèrent. Leurs débris, lancés avec une force terrible contre les murs, allèrent ricocher jusqu'au fond de l'église. Et, à travers la fumée asphyxiante de la poudre qui lentement se dissipait, on vit un trou béant. Plus d'obstacles. Rien que des morceaux de bois déchiquetés, pendant aux gonds tordus. Dehors, un commandement furieux retentit. Lancés au pas de course, un vieux sergent noir de poudre à leur tête, les soldats se ruèrent, bayonnettes en avant. Un jeune insurgé, adossé au maître-autel, ressaisit aussitôt son arme et tira dans le tas. Ce fut le signal d'une décharge générale qui ébranla l'église et fit sauter la poudrière. Sur leurs grabats, les blessés tressaillirent d'horreur. Un d'eux se soulevant, le bras en l'air, cria
« Vive la République !»
Frappé de plusieurs balles, le jeune insurgé qui avait tiré le premier renversa la tête, agita les bras convulsivement, puis s'affaissa au pied de l'autel, la face à terre. Les soldats, exaspérés, tiraient sans merci. Les balles sifflaient, se croisaient en tous sens. Quelques-unes pénétrèrent dans la chapelle des fonds. Les prêtres et les ambulanciers étaient demeurés à leur poste. Une garde malade eut un bras fracassé. Par bonheur, on reconnut des soldats au nombre des victimes. L'ambulance fut épargnée. Les premiers coups tirés, les soldats négligeant de recharger, se mirent à fouiller l'église et se jetèrent à l'arme blanche sur les survivants qui se cachaient derrière les piliers et au fond des chapelles. Des malheureux, percés de coups, défendaient un reste de vie et fuyaient encore pour aller tomber plus loin, épuisés par la perte de leur sang ou achevés par un nouvel ennemi. Les dalles étaient jonchées de cadavres sanglants, de débris d'armes, de piques, de vêtements en lambeaux, de troncs brisés, de confessionnaux abattus. Et parmi ces ruines, parmi les brasiers encore ardents, des soldats rouges de fureur couraient à de nouvelles victimes
à travers l'épaisse fumée qui emplissait l'église. C'était un bruit confus de voix, de cris, de plaintes, de blasphèmes, et du sang partout. Maintenant, les soldats examinaient les cadavres pour qu'aucun vivant n'échappât. Sous le corps d'un insurgé qui le cachait tout entier, un enfant de 16 ans fut découvert et traîné vers un pilier. À genoux, dans une agitation convulsive, il demandait sa grâce d'une voix déchirante. Mais les soldats ne l'écoutaient pas. Le peloton fit feu. L'enfant tomba, la tête fracassée, et sa cervelle rejaillit sur la pierre. Les yeux pleins de larmes, l'abbé Pérard cachait son visage dans ses mains.
« Mon Dieu, mon Dieu !»
s'écria-t-il dans un sanglot.
« Miséricorde !»
Au fond de l'église, Marius demeurait blotti dans un coin sombre avec Louise et Eugène. Plusieurs fois déjà, on avait passé près d'eux sans les voir. Il n'y avait rien à espérer, sans doute. La fin de la tuerie devait cependant être proche.
« A-t-on fouillé par ici ?»
demanda une voix impérative.
« Voyons !»
Marius se tourna vers Louise, qui priait à voix basse. Dans un dernier regard, ils échangèrent leurs âmes et se dirent un suprême adieu. Puis, rapidement, il arma son pistolet. Un officier, suivi de quelques hommes, s'approchait, l'épée à la main. Il n'était plus qu'à quelques pas. Marius leva son arme et fit feu. La balle avait brisé l'épaulette de l'officier. Lui, l'épée en avant, s'élançait sur Marius. Mais, brusquement, il s'arrêta et le regarda fixement.
« Cet homme m'appartient, » dit-il au soldat. « Qu'on le garrotte et qu'on l'emmène, sans lui faire de mal, dans la maison voisine. Vous m'entendez, caporal ? Vous me répondez de ce prisonnier sur votre tête ?
Oui, mon lieutenant.
Maintenant, qu'on mette dehors cette jeune fille et cet enfant. Ils n'ont rien à faire ici.
Monsieur, supplia Louise, de grâce, permettez-nous de rester avec lui.
L'officier la considéra un instant.
Eh bien, soit, reprit-il. Caporal, laissez-les accompagner le prisonnier.
Sur la place, une fanfare éclatait. De tous côtés, montaient des cris de victoire.
« Vive la France !» criait la troupe. « Vive la France !»
Tout était fini.